France Inter.
8h, bonjour Céline Asselot.
Bonjour Ali et Marion, bonjour à tous. Elle a été frappée à la sortie de son collège à Montpellier. Lui a été roué de coups en sortant des cours à Viry-Châtillon. De cas d'agression de collégiens cette semaine qui posent beaucoup de questions. Comment les expliquer, comment les éviter? Question épineuse pour un gouvernement qui a fait de la sécurité à l'école un point clé de sa politique. Lui fait un pas de plus dans la reconnaissance des torts de la France. On verra que les propos d'Emmanuel Macron sur le génocide des Tutsis au Rwanda ils sont bien accueillis. Alors que débutent les cérémonies d'hommage aux victimes. Pour mettre fin au conflit au Proche-Orient, faut-il empêcher les importations d'armes à Israël? C'est le but d'un projet de résolution examiné aujourd'hui par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Des zones côtières bientôt inhabitables en raison de la progression des océans. C'est le diagnostic de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, va dévoiler la liste des 500 communes à risque. Gabriel Attal, lui, est prêt à passer en force sur la réforme très contestée de l'assurance chômage. Le recours au décret n'est pas exclu. On parlera aussi du retour en compétition de Raphaël Nadal, plus compliqué que prévu. Et puis on ira en Allemagne où les bibliothèques se sont lancées dans une vaste opération de nettoyage après avoir découvert que leurs rayons étaient remplis de livres empoisonnés à l'arsenic. Un mot de vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Et suite à de nos vendredis de l'Europe sur Inter, on reçoit les principales têtes de liste à l'élection tous les vendredis. Aujourd'hui, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy pour les Républicains.
Ce sera dès 8h20 et à 8h35, la présidente du groupe Renew au Parlement européen, Valérie Ayer. Elle représente la majorité et ses alliés. Nos questions et les vôtres, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Dans les deux cas, l'agression a eu lieu à la sortie du collège. Dans les deux cas, les faits ont été marqués par une très grande violence, avec des coups portés par plusieurs personnes. L'enquête, évidemment, devra faire la lumière sur les circonstances précises, sur les motivations qui seront peut-être très différentes d'un cas à l'autre. Mais l'enchaînement des faits interpelle. Mardi, à Montpellier, une collégienne de 13 ans a été grièvement blessée. Hier, à Viry-Châtillon, c'est un élève de 15 ans qui a été roué de coups. Son pronostic vital est engagé. Aucune interpellation pour le moment. Et le maire de la commune de l'Essonne, Jean-Marie Villain, se dit aujourd'hui très choqué.
Il sortait d'un cours de musique et il s'est fait agresser par 3 ou 4 jeunes à une cinquantaine, une centaine de mètres de la sortie de son collège qui lui ont tapé dessus comme des sauvages. Ils l'ont massacré à coups de poing. Et les pompiers sont intervenus assez rapidement parce que quelqu'un l'a vu dans l'escalier prostré alors qu'il avait un peu de mal même à répondre aux questions. Les pompiers et le médecin du SAMU ont pris beaucoup de temps avant de l'emmener à Necker, justement pour le stabiliser suffisamment. Voilà. Il n'y a plus aucune mesure. On tape pas comme ça à 3 ou 4 sur quelqu'un. Je mesure pas comment on peut arriver à faire ça. Comment on peut arriver sciemment se poser et taper sur quelqu'un pendant plusieurs minutes jusqu'à temps qu'il ne bouge plus? Il y a un vrai problème d'éducation pour qu'on puisse engendrer des fous furieux pareils.
Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Alors encore une fois, l'enquête devra dire si ces deux agressions sont liées ou pas au contexte scolaire. Mais ça s'inscrit tout de même dans un contexte particulier où le gouvernement se dit déterminé à lutter contre les violences à l'intérieur et à l'extérieur des écoles. On se souvient des propos de Gabriel Attal qui avait promis de nettoyer les trottoirs aux abords des établissements face aux gangs et aux deals. Il y avait une réunion hier qui était consacrée à la sécurisation des écoles, des collèges, des lycées. Nicole Belloubet, la ministre, décrète la mobilisation générale. Mais ça semble pas si simple.
Non, parce qu'on le voit bien, ces agressions dépassent le cadre strict de l'école, que ce soit dans la rue, aux abords des collèges ou sur les réseaux sociaux. L'intérêt de la réunion d'hier, c'est de réaffirmer la nécessité de travailler ensemble. Éducation nationale, justice et ministère de l'Intérieur. Dans ce plan présenté hier et intitulé « Déployer un bouclier autour de l'école », pas de grandes nouveautés par rapport à ce qui existe déjà ou ce qui a été annoncé récemment. C'est en fait un recensement de toutes les mesures qu'il est possible de mettre en place. C'est par exemple tout le volet anti-harcèlement, mais aussi les alarmes anti-intrusion, les lignes d'appel prioritaires pour être en lien direct avec les forces de l'ordre en cas de menace. Et puis bien sûr, la force scolaire mobile annoncée en fin de semaine dernière, elle sera composée d'une vingtaine de personnels de l'éducation nationale qui pourront se déployer sur un établissement qui traverserait une crise importante. Ce plan n'apporte pas de moyens supplémentaires en termes de personnel ou en termes budgétaires, c'est sans doute sa faiblesse. Il ne cible pas seulement 150 à 200 établissements à risque, mais vise à renforcer partout le niveau de vigilance.
Alors ça, ce sont pour les mesures générales, mais le gouvernement a aussi réagi plus précisément à l'agression de cette adolescente à Montpellier. Nicole Belloubet annonce une enquête administrative.
Oui, cette enquête aura pour objet d'établir la réalité des faits et les responsabilités, a précisé la ministre Nicole Belloubet. Elle a assuré que son bras ne tremblerait pas et qu'elle en tirerait toutes les conséquences. Message de fermeté, le gouvernement martèle que le pas de vague, c'est fini. Il veut montrer qu'il soutient les personnels, des personnels qui disent souvent se sentir seul et pas suffisamment épaulé.
Merci Sonia Princet, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Et l'école, décidément au cœur de l'agenda de l'exécutif, puisque le chef de l'État doit visiter aujourd'hui une école primaire dans le 9e arrondissement de Paris.
Emmanuel Macron qui estime par ailleurs que la France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda.
Oui, mais qu'elle n'a pas eu la volonté à l'époque, à l'approche du 30e anniversaire du début des massacres, le 7 avril 1994. Le chef de l'État a voulu faire passer un message fort, salué par les autorités de défense des droits de l'homme qui veulent maintenant aller plus loin, Nathanaël Charbonnier.
Un pas de plus pour le président français qui explique que notre pays n'a pas eu la volonté d'arrêter le génocide. En matière de symbole, le terme est donc fort à quelques heures des commémorations. Mais s'il peut ravir le président rwandais, il ne satisfait pas les associations qui attendent d'abord que la justice passe. Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme.
La diplomatie ne doit en aucun cas effacer la justice. Il n'y a pas de relations diplomatiques acceptables si l'on fait abstraction de la nécessité de justice.
Et pour que justice passe, il faut d'abord que la France accepte d'ouvrir ses archives, explique l'avocat belge Alexis Dessoual.
30 ans après, justement, le pouvoir politique français devrait avoir le courage d'ouvrir les archives. Cela est important dans les relations avec le Rwanda d'aujourd'hui.
Ouvrir ses archives, cela est possible car la France l'a fait pour la commission d'historiens Duclert qui a travaillé sur le rôle et l'engagement de la France au Rwanda. Mais étrangement, la France refuse d'ouvrir ces mêmes archives à la justice, déplore Éric Plouvier, avocat de l'association Survie.
On ne peut pas s'arrêter en cours en disant « les historiens nous disent qu'il y a une responsabilité lourde et accablante » sans chercher si cette responsabilité lourde et accablante, elle ne doit pas trouver des réponses pénales aussi.
Et dernier acte attendu par les associations, que la France accepte que puissent être jugés les militaires français qui étaient à l'époque aux responsabilités.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France, Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer dimanche, le jour anniversaire en vidéo sur les réseaux sociaux. C'est Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, qui le représentera lors des cérémonies à Kigali. Au Proche-Orient, Israël promet d'accélérer l'aide humanitaire et d'autoriser la livraison temporaire de colis via le port d'Ashdod au nord de la bande de Gaza et le point de passage d'Erez au sud, afin, je cite, d'éviter une crise humanitaire et d'assurer la poursuite des combats, annonce faite sous la pression grandissante des États-Unis. Hier, Joe Biden s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Le président américain a clairement réclamé des mesures concrètes pour répondre à la souffrance des civils, selon le compte-rendu de la Maison Blanche, qui infléchit donc sa position presque 6 mois jour pour jour après le début de l'offensive. Les Nations Unies, de leur côté, multiplient les appels à faire cesser les combats. Et aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner un projet de résolution appelant un embargo sur les armes à destination d'Israël. Car dans son offensive à Gaza, l'État hébreu peut compter, Omar Waman, sur plusieurs pays fournisseurs d'équipements militaires.
L'appel a été lancé par le Pakistan au nom des pays de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Si la résolution est adoptée, elle n'aura qu'une portée symbolique, car juridiquement non contraignante. Son objectif, pousser les pays marchands d'armes à suivre l'exemple du Canada, qui a décidé il y a quelques semaines de ne plus vendre d'équipements militaires à l'État hébreu. La Grande-Bretagne menace de faire de même. Mais ces deux acteurs ne jouent pas un grand rôle dans la fourniture d'armes à Israël. Contrairement aux États-Unis, qui avec 68% des importations de matériel de guerre ces 5 dernières années, sont les premiers fournisseurs de l'État hébreu selon les données du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, suivi de l'Allemagne, loin derrière, avec 28%, de l'Italie en troisième position. Quant à la France, ses ventes d'armes à Israël sont marginales, moins de 0,5% du total de ses exportations pour l'année 2022.
Précision signée Omar Waman.
Il va falloir reloger, indemniser et surtout s'interroger sur l'adaptation des plans d'urbanisme.
Oui, car en France, certaines zones côtières vont tout simplement devenir inhabitables. C'est le mot lourd de sens et de conséquences prononcé par Christophe Béchu. Les océans progressent sous l'effet du changement climatique. L'équipe l'équivalent d'un terrain de foot disparaît chaque semaine dans notre pays, dit le ministre de la Transition écologique, qui s'apprête donc à présenter la carte des communes à risque.
On a identifié 500 communes, on a commencé à travailler avec les maires qui sont les plus concernés et on travaille avec des plans qui sont du sur-mesure. Dans certains endroits, on peut mettre des dunes, dans d'autres, on peut imaginer des digues, mais dans d'autres aussi. Il faut dire qu'on aura des zones qui seront inhabitables et des territoires qui seront de plus en plus grands. Dispositif d'indemnisation, possibilité de relogement à l'arrière de la commune sur d'autres terrains, ce sont toutes les solutions qui sont aujourd'hui sur la table et qu'on est en train de travailler sur la base de ces cartes. Et c'est donc pour ça que le meilleur conseil que je puisse donner à celui qui se sentirait concerné par ces cartes, c'est d'aller voir son maire. Parce que c'est auprès de lui qu'on fait ce travail de dentelle. On a 20% du littoral qui est concerné. C'est donc pas tout le littoral, mais on a des endroits où nous savons que nous n'aurons pas d'autres solutions que de devoir changer la façon de l'habiter.
Christophe Béchu, hier soir sur TF1, le ministre de la Transition écologique et le gouvernement dans son ensemble qui font face aux critiques du Haut Conseil pour le Climat. Dans une lettre adressée à Gabriel Attal, l'instance dénonce un recul de l'ambition de la politique climatique. Lui aussi fait face aux critiques, y compris de son propre camp, mais il l'assume totalement dans un entretien au journal Le Monde. Gabriel Attal défend l'idée d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Ce serait la troisième en cinq ans, ce qui inquiète les oppositions, les syndicats, mais aussi une bonne partie de la majorité. Mais il y aura bien une réforme en 2024, martèle Gabriel Attal, car notre modèle social doit être davantage tourné vers l'activité que vers l'inactivité. Alors pour s'éviter des déboires dans l'hémicycle, le chef du gouvernement pourrait tout simplement se passer du vote à l'Assemblée, Simon Le Baron, et imposer son texte par voie réglementaire.
Une réforme de l'assurance chômage adoptée sans vote. Le gouvernement l'a déjà fait, notamment en 2019, et rien ne l'empêche de passer à nouveau par un simple décret pour durcir encore les règles. C'est même l'option privilégiée, car le temps presse, explique un cadre macroniste. Gabriel Attal est tétanisé par les agences de notation financière. Sa hantise, c'est que la note française soit dégradée avant les élections européennes. Alors face à l'hostilité affichée par la présidente de l'Assemblée Yael Braun-Pivet, le président de la commission des lois Sacha Houlier, ou même par sa prédécesseure Elisabeth Borne, le Premier ministre tente de rectifier le tir en ouvrant la porte à une taxation sur les rentes et en s'efforçant de corriger le discours ambiant. Non, cette réforme n'est pas un instrument comptable destiné à faire des économies, c'est un outil de plus vers le plein emploi. Le risque en tout cas est grand pour le chef du gouvernement qui joue à la fois l'unité de sa majorité et la crédibilité d'un positionnement politique censé répondre aux inquiétudes des classes moyennes.
Simon Le Baron, service politique de France Inter. C'est un verdict qui satisfait les parties civiles au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Le principal accusé a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Audrey Mondejdi avait aidé le djihadiste Chérif Chekat à se procurer l'arme avec laquelle il a tué 5 personnes. C'était en 2018.
Des livres contaminés à l'arsenic, ça se passe en Allemagne.
Oui, difficile de ne pas penser au nom de la rose, à ces moines morts d'avoir lu un livre interdit, caché dans un recoin secret de la bibliothèque. La différence, c'est qu'en Allemagne, on découvre que ce sont des dizaines de milliers d'ouvrages qui pourraient contenir ce poison dans plusieurs bibliothèques universitaires. La cause est un pigment vert, très à la mode au 19e siècle, qui a notamment été utilisé pour la fabrication des livres. Alors pour éviter que les lecteurs allemands ne subissent le même sort que les personnages d'Umberto Eco, les volumes suspects sont retirés des rayons pour être examinés, 60 000, rien qu'à l'université de Bielefeld, où Sébastien Baer s'est rendu.
Avec leur couleur vert vif, les livres potentiellement contaminés sont faciles à repérer. Dans l'une des allées de la bibliothèque, la directrice Barbara Knorn désigne un ouvrage consacré à l'histoire de l'Allemagne.
Ce livre, par exemple, a une couleur verte caractéristique. Parfois, c'est la couverture qui est verte ou alors la tranche du livre. Le danger pour la santé, c'est quand on manipule les livres, quand l'arsenic se dépose sur les mains et qu'on les porte ensuite à la bouche.
60 000 ouvrages vont devoir être testés pour évaluer la présence d'arsenic. Ce sont des livres paru au 19e siècle, à l'époque où un colorant baptisé vert de Schweinfurt était largement répandu, explique Reinhard Altenhöner de l'Association allemande des bibliothèques.
C'était un colorant merveilleusement intense et brillant. C'est l'arsenic qui donne cette couleur particulière. Et le risque, c'est que ça déclenche des malaises, des vomissements ou des diarrhées, jusqu'au cancer, même si c'est très, très improbable.
La direction a alerté les 24 000 étudiants via la messagerie interne. Cela n'empêche pas Paul d'être un peu inquiet.
En ce moment, maintenant, je viens étudier ici 5 ou 6 jours par semaine. C'est un peu effrayant d'être exposé à des substances aussi toxiques.
Les analyses vont débuter dans les prochains jours. Les ouvrages contaminés à l'arsenic seront mis à l'écart, puis numérisés, pour rester accessible aux étudiants. Bielefeld, Sébastien Baer, France Inter.
Voilà, n'hésitez pas à inspecter votre bibliothèque, on ne sait jamais s'il y a de vieux livres qui traînent. Et puis ça devait être son grand retour à la compétition, lui qui rêve de continuer à tout gagner malgré son âge et ses blessures. Finalement, Rafael Nadal ne participera pas au Masters 1000 de Monte Carlo qui démarre dimanche et qui marque traditionnellement, Fabrice Abgral, l'ouverture de la saison sur terre battue.
Rafael Nadal devait arriver lundi à Monaco. Son hôtel était réservé, mais il a préféré cette semaine rester chez lui à Majorque pour s'entraîner à l'abri des regards dans son académie. Et c'est là qu'il a décidé de déclarer forfait. Il a multiplié les séances d'entraînement avec plus ou moins d'intensité pour mesurer son niveau de forme et il s'est rendu compte que physiquement il n'était pas capable de reprendre la compétition de surcroît sur terre battue. Aujourd'hui je ne peux pas, mon corps ne me le permet pas. C'est ce que Rafael Nadal a écrit ce jeudi sur X. C'est pourquoi, prudent, il préfère renoncer à Monte Carlo plutôt que de faire de la figuration. À l'exception d'une exhibition il y a un mois contre Alcaraz à Las Vegas, Nadal n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Brisbane en janvier dernier, où il a été victime d'une déchirure musculaire. Depuis, il ne cesse de repousser son retour. C'est à se demander si à bientôt 38 ans, il sera prêt à temps pour participer à Roland-Garros. Il ne lui reste plus que 2 mois de préparation. Rafael Nadal pourrait reprendre la compétition à Barcelone dans 10 jours. Son nom figure sur la liste des inscrits pour l'instant.
Fabrice Abgral du service des sports, on imagine que ses concurrents suivent tout ça avec beaucoup d'attention, bien sûr.
On l'imaginait, et puis nous aussi. Il est 8h16 sur France Inter. C'était le journal de Céline Aslo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Céline Dacosta, une première nuit tropicale dans le sud-ouest.
Oui, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est vraiment comme ça qu'on appelle en météo les nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés.
Ah bon ?
Et c'est ce qui s'est passé dans le sud-ouest où la moyenne allait cette nuit de 21 à 23 degrés. Normalement, ça n'arrive pas avant le mois de juillet. On est un petit peu en avance. On parle de pic de chaleur depuis hier et jusqu'à demain où la moyenne l'après-midi sera quasiment partout de 24 degrés. Ça commencera à baisser à partir de dimanche. On attend jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest demain. Aujourd'hui, 17 à 23 degrés, c'est la moyenne du nord au sud pour cet après-midi. 9 à 12 ce matin sur la moitié nord. Déjà 13 à 23 pour la moitié sud.
Avec du soleil aussi pour la moitié sud.
Oui, largement présent ce soleil. On aura juste un peu de grisaille près des côtes méditerranéennes. Un vent de sud bien présent également pour la moitié nord. Une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse est en train de se mettre en place. Elle arrive par le nord-ouest ce matin. On la retrouvera cet après-midi de la Bretagne aux Ardennes en passant par la région parisienne, de faibles averses mais surtout beaucoup de nuages et un vent bien présent sur les bords de Manche.
Céline Dacosta, merci. Il est 8h17, géopolitique.